Là, tout de suite, on va diffuser un extrait d'une interview donc, de Bernard Friot. C'est une interview qui a été faite par Le Média le 13 mars, qui s'appelle « Laissons crever les banques ». Et pour info, Bernard Friot, c'est un sociologue, économiste et militant du réseau Salariat qui milite, on va dire, pour sortir du capitalisme et l'instauration d'un salaire à vie. Ceux qui ont déjà entendu parler. On écoute et on revient après.
Alors, la crise financière, elle est déjà là et elle pourrait être pire que celle de 2008. Les États et les banques centrales ont déjà commencé à soutenir les banques et les grandes entreprises par les moyens classiques qu'ils savent utiliser. Emmanuel Macron a expliqué hier qu'il soutiendrait le système économique et donc financier, quoi qu'il en coûte. Penses-tu vraiment, aujourd'hui, avec le contexte qui est le nôtre, qu'il faut cette fois-ci laisser crever les banques et les grandes entreprises? On va commencer par les entreprises, parce que les mesures annoncées par Emmanuel Macron concernent surtout les entreprises. Or, dans les entreprises, il y a des PME, il y a des coopératives, il y a des grandes entreprises. Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut penser donc, du plan de soutien annoncé pour les entreprises par Emmanuel Macron? À qui ce plan va coûter de l'argent, et est-ce que tu es d'accord ?
Alors, je suis en total désaccord, évidemment, avec le soutien du système bancaire et des marchés financiers, qui ne manquera pas d'être le cœur du projet Macron, puisque c'est pour cela qu'il est élu et président de la République. Tu as raison de distinguer PME et grandes entreprises. L'enjeu pour moi, qui suis un économiste du travail, hein, c'est le maintien du salaire pour les travailleurs. Et donc, je ne peux approuver le délai, ou voire même la suppression, puisque c'est annoncé comme tel aussi, hein, des cotisations sociales dues par les employeurs, dont on voit bien le côté complètement, mais irresponsable. Ces cotisations sociales, elles financent l'hôpital public en particulier. Ce qu'on veut, c'est qu'ils crèvent l'hôpital public et que la pandémie ne soit pas enrayée. C'est ça l'objectif. Enfin, c'est d'une irresponsabilité absolue de proposer que le soutien des entreprises passe par le non-paiement des cotisations. C'est totalement irresponsable. Et il faut être, je ne sais pas, sur la lune ou être vraiment au service du capital, comme l'est notre président, pour faire des propositions aussi aberrantes. Soutenir les entreprises, les PME, c'est décréter que les dettes d'investissement ne seront pas remboursées. Ça, oui. Là, on fait porter la responsabilité de la crise actuelle sur ses initiateurs, c'est-à-dire les marchés financiers. Et c'est tout à fait normal que ce soit eux qui soient mis en cause et que ce soit les remboursements des dettes que les entreprises ont contractées pour financer leur investissement qui ne soient pas honorés. Ça, oui.
Déjà, la Banque Centrale Européenne s'est intervenue sur les marchés pour soutenir les bourses qui plongeaient. Est-ce que il y a un effet de, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre l'implication de la Banque Centrale Européenne auprès des marchés financiers et des mesures austéritaires qui viendraient 3, 4, 5 années plus tard?
Ah ben, elles viennent tout de suite, hein, et on l'a bien vu depuis 2008. Hein, c'est clair que la création monétaire à l'appel que fait la Banque centrale pour soutenir les marchés financiers, va aux actionnaires, ne va pas du tout à l'économie réelle, justement. Et pour que cette monnaie ne soit pas de la monnaie de singe, encore faut-il qu'elle soit fondée sur la valeur créée par les travailleurs, qui va leur être piquée par des politiques austéritaires, et qui leur est piquée depuis 10 ans, hein, c'est clair. S'il y a une telle exaspération populaire, c'est parce que les services publics sont en déshérence, parce que les salaires n'augmentent pas, parce que les cotisations sociales sont gelées, bref, parce que l'austérité, conséquence nécessaire du soutien de la Banque centrale au marché financier, par une création monétaire absolument indécente et dirigée vers ces marchés et non pas vers la population, tout ça est inéluctable. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de prophètes. Hein. On le sait très bien que tout c'est comme ça. Ça se passe comme ça depuis 10 ans et ça se passera comme ça à nouveau.
Malgré toute cette création monétaire, les marchés ne semblaient pas satisfaits. Parce qu'il y a eu un jeudi noir après le lundi noir.
Mais parce qu'ils s'attendaient encore encore à des taux encore plus faibles, enfin, etc. Évidemment, ces gens-là, non, on leur en donne jamais assez. Hein, et Macron est un spécialiste de la chose, puisque c'est un trader.
Est-ce que nous pouvons survivre à la faillite du CAC 40?
Mais bien sûr, mais il faut qu'il soit en faillite, ce CAC 40. Enfin, tout ça, ce sont des parasites, ce sont des gens qui n'existent que par notre travail, que par la ponction qu'ils exercent sur notre travail. Donc il y a un moment où il faut en finir avec le fait de sauver le CAC 40. Il ne s'agit pas de sauver le CAC 40, il s'agit de l'assécher, il s'agit que les PME ne remboursent aucune de leurs dettes d'investissement. C'est ça le seul soutien légitime, utile aux entreprises. Mais encore une fois, s'attaquer au salaire et à la partie socialisée du salaire qui finance le système de santé, s'attaquer aux impôts, puisqu'elles seront aussi exonérées du paiement de leurs impôts pour les soutenir, c'est-à-dire aux services publics, c'est d'une... on voit le caractère complètement absurde, indécent, obscène de ce qu'est un pouvoir au service du capital, au service direct du capital, comme l'est le pouvoir de Macron depuis son élection. Affronter la crise d'une façon qui soit positive, c'est déclarer un moratoire sur toutes les dettes d'investissement. Je ne parle pas des dettes que Draghi a fait pour augmenter son empire. Celui-là qui crève avec ses dettes, ça, bien sûr. Hein. Je parle des dettes d'investissement qui sont contractées par les entreprises. Ces dettes-là doivent être non remboursées. Elles sont illégitimes puisqu'il n'y a aucune raison de s'endetter pour travailler. Il n'y a aucune raison. C'est nous qui produisons la valeur. Il n'y a aucune raison que, pour pouvoir travailler, nous soyons obligés de nous endetter, soit comme travailleurs indépendants, soit collectivement comme membres d'une entreprise, auprès de prêteurs qui ne prêtent que ce qu'ils nous ont piqué ou ce qu'ils vont nous piquer, si c'est de la création monétaire. Il ne s'agit pas de laisser crever les entreprises du CAC 40. Ce sont des entreprises absolument nécessaires.
Mais qu'est-ce qu'il faut en faire ?
Ah ben, il s'agit d'en faire des entreprises qui soient la propriété des travailleurs. Là, nous ne pouvons plus continuer. On le voit bien maintenant. Les signaux d'alerte écologique, anthropologique, de sanitaire, etc., se multiplient. On ne peut plus confier au capital la production des biens et des services. Effectivement, aujourd'hui, pour faire face à la crise, engager un immense débat politique sur l'illégitimité de la dette pour investissement et sur la possibilité de remplacer le funeste cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention.
Tout de même, cette crise remet au devant de la scène la question de la valeur du travail. Dans le monde aujourd'hui, la recherche fondamentale sur les coronavirus, qui a été d'ailleurs un peu négligée ces dernières années,
est moins... mais totalement négligée. Après le STRAS, il y a eu des programmes, mais l'invasion de la logique...
boutiquière.
Du capital financier dans la recherche... Le crédit impôt recherche, le scandale inouï du crédit impôt recherche, le pilotage de la recherche par l'ANR, la fin du financement structurel des laboratoires, la multiplication de la précarité des contractuels dans la recherche. Mais tout ça est criminel, totalement criminel. Et Macron est un criminel. Il faut le dire, nous n'en sortirons jamais tant que nous apporterons une quelconque crédibilité à ce pantin du capital. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons exprimer que les travailleurs sont souverains sur la production de la valeur. Ça doit se traduire par le fait de libérer les personnes de l'aléa du marché du travail, par une attribution à la personne même d'un salaire à la qualification personnelle, et ça suppose que la propriété des entreprises devienne le fait des travailleurs. Il n'y a pas d'autre solution.
Mais comment, dans ce moment, comment faire avancer ce projet ?
D'abord par le non-remboursement des dettes des entreprises. Premier point. C'est l'idée décisive. C'est l'idée décisive parce qu'il faut absolument, un, assécher le capital financier, deux, faire la preuve que nous n'avons pas besoin de ce parasite pour financer l'investissement.
Elle est là.
Voilà, Bernard, leader Maximo du réseau Salaria.
Et...
Ouais, on nous appelle.
Allô ?
Oui, allô ?
Alors, bonjour, c'est Loïc ?
Oui, c'est
oui,
ça.
C'est Catherine. Donc, Loïc est militant du réseau Salaria. Il a entendu la voix de Bernard, ça y est, il appelle. Et aussi militant à Sud Enseignement Privé. Tu voulais réagir ?
Oui, je voulais réagir tout à fait pour appuyer en fait ce que disait Bernard. Enfin, disons que ce que dit Bernard, à mon avis, il faut que ce soit repris par les salariés, et en particulier par les syndicalistes. Donc c'est ce qu'on est plusieurs à essayer de faire. En fait, les cotisations, ce dont parle Bernard, les cotisations sociales, c'est des choses qui sont globalement pas très bien connues. Et donc ça peut sembler un peu abstrait, mais là on voit à l'occasion de la crise du coronavirus à quel point elles sont importantes. Donc là je veux bien faire un tout petit rappel. En fait, ce qui se passe, ce qui explique selon le réseau Salaria la crise dans l'hôpital public en ce moment, c'est le gel des taux de cotisation. Alors ça semble un peu technique comme ça, mais il faut savoir que quand la sécurité sociale elle est créée en 1946, elle se crée avec un outil de financement qui est la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est une partie du salaire, de nos salaires, qui est socialisée au niveau du pays tout entier, quoi. Et c'est cet argent, quoi, cette valeur économique prélevée dans les entreprises, qui va financer l'ensemble de la protection sociale à la libération. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que de 1945 jusqu'aux années 80, donc ça fait quand même une longue période, plusieurs décennies, en fait, le taux de cotisation, il va progresser énormément, hein, parce qu'il passe, là, ce que rappelle Bernard, il passe à peu près de 30% à 60% du salaire brut. Donc ça veut dire qu'on a un taux de cotisation qui progresse. Et pendant toutes ces années-là, évidemment, le patronat n'aime pas ça, mais bon, il fait un peu avec. Il y a un rapport de force qui est suffisant pour que les cotisations continuent à augmenter, parce qu'on considère que les gens doivent accéder aux prestations chômage, ils doivent accéder aux prestations de santé, etc., etc. Et donc, ça continue d'accélérer jusqu'à ce que le patronat, en fait, arrive à nous faire croire que les cotisations sont un coût du travail. Et à ce moment-là, en fait, on va chercher à les exonérer, on va essayer de les diminuer au nom de l'emploi.
Les fameuses charges.
On n'est pas sorti de cette affaire-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que le discours sur les cotisations, bon, il fait pas rêver, il n'y a pas grand monde qui en parle. Or, c'est un point qui me semble tout à fait décisif pour financer l'hôpital. Parce qu'en ce moment, en pleine crise du coronavirus, en fait, les soignants, les syndicalistes de l'hôpital, par exemple, disent qu'il faut plus de moyens pour l'hôpital. Et évidemment, ils ont raison, sauf que plus de moyens pour l'hôpital, il faut quand même se dire d'où viennent ces moyens-là. Et il y a des moyens tout à fait néfastes, et un moyen tout à fait néfaste, c'est le crédit. Et donc, l'hôpital public, aujourd'hui, enfin en gros entre les années 80 et aujourd'hui, il va chercher son financement sur les marchés financiers, par du crédit auprès de la banque. Or, l'hôpital de 1945 aux années 80, enfin je schématise un peu, mais de 1945 à 1980, l'hôpital est financé par les cotisations sociales et un peu par l'impôt. Donc c'est-à-dire que les hôpitaux ne s'endettent pas, quand on veut financer les CHU par exemple, on augmente le taux de cotisation et on subventionne l'hôpital qui n'a pas à rembourser cette subvention. Et à partir des années 80, je schématise, mais en gros on va aller chercher un complément d'argent parce que les cotisations sont gelées, on va chercher un complément d'argent sur les marchés financiers par crédit, et là l'hôpital va commencer à s'endetter. Et donc la mission des soignants, elle va complètement changer, elle va passer d'une mission de soins où on a de l'argent mais parce que ça paye les salaires, ça paye les machines, etc. Et on a de l'argent en fait pour guérir, pour soigner, enfin pour faire son métier, quoi. Et là aujourd'hui, le travail des soignants, ça va être en partie de rembourser la dette qu'a contracté l'hôpital auprès de la banque, auprès des marchés financiers. Et donc il faut absolument dire que non, il n'y a pas du tout besoin que les hôpitaux soient endettés. On peut financer l'hôpital public avec des cotisations maladie, comme ça s'est fait pendant toute une partie du XXe siècle. Et disons que ça dépend pas seulement des soignants. Les soignants peuvent pas être les seuls à dire ça. Il faut absolument que dans toutes les entreprises, dans tous les services publics, on fasse un peu passer ce message-là. Il faut que qu'on réaugmente les cotisations. Ça me semble être un point tout à fait essentiel pour la santé, parce qu'on est sur la crise du coronavirus. Il faut absolument qu'on arrive à se convaincre que les cotisations sociales, en fait, c'est pas du tout un coût de l'emploi. Ça permet à des gens de travailler hors du marché.
Vive les cotisations sociales.
Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire passer. Et ce que dit Bernard. Alors Bernard, lui, il va plus loin parce qu'il propose en fait. Parce que Bernard, il se met dans la peau d'un travailleur indépendant ou d'un employeur qui se dit, par exemple, qui serait convaincu par ce discours-là, qui dirait, je veux bien payer mes cotisations maladie, mais comment je peux faire? Parce que là, je peux pas. Et donc, la proposition qu'il fait, à mon avis, très très intéressante, c'est plutôt que de considérer que les cotisations, c'est des choses avec lesquelles on peut jouer en faisant du black. C'est même quelque chose qui est plutôt valorisé, hein. Le black, finalement, c'est pas quelque chose qui est condamné socialement. On a l'impression qu'on peut faire du black comme ça, mais il faut se rendre compte que quand on fait du black, on finance pas l'hôpital. Quand on fait du black, on finance pas les retraites. Quand on fait du black, on permet pas aux gens d'être couverts quand ils sont au chômage. Donc après, faut choisir. Hein. Alors c'est sûr, si on veut tous de la fraîche et du salaire net, on fait du black. Sauf que quand t'auras ton opération, je sais pas quoi, tu prends un organe vital, quand t'auras une opération à faire qui coûte 20 000 balles ou 30 000 balles, là il faudra que tu sortes la fraîche, hein. Il faudra que tu sortes les 20 000 ou les 30 000 balles. Et ça, je pense pas que ce soit possible. Donc moi, j'invite les travailleurs indépendants, les employeurs des TPE, PME à se pencher sur ce qu'est le régime général de sécurité sociale et à chercher à l'intégrer. Les agriculteurs, bien sûr, il faut qu'ils intègrent le régime général de sécurité sociale. Et à mon avis, c'est comme ça qu'à la fois ils auront une bonne retraite, à la fois ils arrêteront de s'endetter auprès du Crédit Agricole ou auprès des banques pour pouvoir bosser. C'est quand même un scandale, ça c'est un scandale total. Hein. Par exemple, si je prends les agriculteurs, ils se réendettent à chaque génération. Donc une ferme, une exploitation en général, c'est légué de père en fils, quoi. Je fais vite, mais il y a une tradition familiale comme ça qui fait que de père en fils, les exploitations sont cédées. Mais en fait, le truc, c'est que le Crédit Agricole, lui, il se refait à chaque génération. C'est-à-dire que le père peut même pas donner sa ferme au fils. Ça repasse par la banque qui va se refaire sur le taux d'intérêt du fils. Enfin, là, il y a un scandale quand même total. Alors, à ce titre-là, d'ailleurs, je veux bien citer un bouquin qui existe, qui a été sorti en décembre 2019. Donc là, ils avaient eu du flair. C'est un livre qui est sorti aux ateliers de création libertaire, qui s'appelle Abolir la dette, travailler sans crédit. Abolir la dette, travailler sans crédit. Donc moi, j'invite les travailleurs indépendants ou les petits commerçants qui nous écouteraient à aller regarder dans cette direction-là et à se demander qu'est-ce qui est plus légitime, payer un hôpital, sauver des vies ou rembourser la banque.
C'est-à-dire donner de l'argent. Donner de l'argent, littéralement, quoi, à des banquiers.
Ils en font ce qu'ils veulent. Donner de l'argent à des banquiers, effectivement, c'est... Mais on est tellement convaincu que les banques, sont nécessaires, alors que payer les cotisations, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais, une sorte de relativisme. Et là-dessus, j'insiste sur le fait que il faut pas. Donc là, Bernard, il dit ça. On a l'impression, et puis il est vaillant, quoi, parce qu'il dit ça un peu. Il est seul comme ça en interview aux médias. Mais je pense vraiment qu'il faut que ce soit quelque chose qui devienne extrêmement populaire. Et les salariés ont du pouvoir. Les cotisations, elles se payent au niveau de l'entreprise. Donc les salariés, dans leurs instances, dans leur CE, dans leur CSE, les délégués syndicaux, ils peuvent tout à fait veiller à ce que les cotisations sociales soient payées, par exemple en ce moment. Avec cet argumentaire-là, si vous ne payez pas les cotisations, en gros, l'hôpital, il peut moins bien soigner. Je pense que c'est tout à fait audible, dans cette période-là. Donc, je pense que c'est un moment... C'est un moment sur lequel il faut vraiment insister sur les cotisations sociales.
Ouais. Ouais, on espère donc que ça serve de situation révélatrice, quoi, de à quoi ça sert, entre autres, la cotisation sociale. Je pense qu'on va voir aussi l'autre revers de la médaille, quoi, mais à quoi ça sert pas les banquiers. On espère, quoi.
Les banquiers... Alors, là-dessus, on peut comparer, par exemple, une infirmière et un banquier. Je parle pas du mec, le guichet qui est à la banque, tu vois. Bon. Je parle vraiment du banquier, c'est-à-dire la personne à qui appartient la banque et qui se fait de l'argent avec la banque. Une infirmière et un banquier. L'infirmière, elle va être exaltée. Par exemple, quand Macron fait son discours « Nous sommes en guerre », etc., ou le discours de jeudi, en fait, il prend vraiment typiquement l'infirmière, quoi. Il prend typiquement l'infirmière comme quelqu'un qui fait un super travail. Ce sont les héros en blouse blanche. Et donc, elle va être complètement valorisée pour son travail concret, pour ce qu'elle fait concrètement. On va la valoriser. On va dire que c'est vraiment super. Mais vous voyez, c'est exactement comme quand on valorise un bénévole ou comme quand on donne des médailles du mérite ou des médailles du travail à des salariés. Vous voyez tout ça? Ça n'a rien à voir avec ce que fait concrètement la personne. Et évidemment... En cette période-là, on est bien content qu'il y ait des gens qui savent bien faire le travail et qui sont les gens en blouse blanche en ce moment. Mais si vous regardez bien, le patronat et Macron va insister que sur ça. Et il va jamais insister sur le côté argent, sur le côté salaire, sur ce côté-là. Or, le banquier ne se fait jamais chier avec son utilité sociale. Le banquier sait qu'il est détesté. Et donc, lui, il va parler que d'argent. Et il va parler que de taux, il va parler que de trucs comme ça. Quand tu vas dans une banque, il y a des taux partout, il y a des nombres partout. Et le banquier, même le petit banquier, là pour le coup, en guichet, parce que ça se transmet dans la hiérarchie bancaire, au guichet, le banquier va, quand il va recevoir un travailleur indépendant, il va lui proposer de faire du black, il va l'inciter à faire du black, il va l'inciter à avoir un système économique qui repose en partie sur le black. C'est-à-dire que alors là, pour le coup, ça va être le guichetier, mais le petit banquier, le petit gars que tu vas rencontrer dans ta banque, dans le coin, en fait, il va mener la lutte de classe, peut-être sans le savoir, mais il va t'encourager plutôt à le considérer, lui, comme un allié et à ne pas payer la cotisation sociale. Or, il faut que nous, de notre côté, donc côté infirmière, côté syndicat, côté salarié, on arrive à mener la même lutte, c'est-à-dire à bien faire comprendre que les taux, c'est important, que les taux de cotisation sont importants et que, à côté de ça, finalement, rembourser la banque, c'est peut-être pas si important que ça, tu vois. Et vraiment, je pense qu'il faut faire ce travail-là un peu chiant. Alors, sauf que nous, on n'a pas d'agence comme les banques. Et voilà, mais les banquiers, ils sont pas chiés avec leur utilité sociale. Donc, je pense qu'il y a pour généraliser un peu plus, je pense qu'il y a la lutte de classe ne s'arrête pas. Il faut continuer à parler d'argent, de salaire, parce que moi, je pense qu'en face, la crise, c'est toujours une opportunité pour les dominants. Donc eux, ils ont des idées de ce qu'ils vont mettre en place. Ils ont des idées de comment attaquer le salaire. Le télétravail, c'est une idée patronale depuis longtemps et ils cherchent à tester des voies du télétravail. Donc en ce moment, nous, côté salariés, il faut aussi qu'on puisse mener la lutte de classe et notamment sur la question du salaire et pour moi le plus important, du salaire socialisé, donc de la cotisation.
Ouais. J'espère que ça sautera aux yeux, hein, voilà. Mais c'est l'occasion quand même d'aller directement sur le discours qui nous a été servi, la soupe qui nous a été servie aux 20h depuis 30 ans sur les cotisations patronales, quoi.
Le coût du travail.
Quand Manuel Valls était allé... devant un parterre de patrons du MEDEF, dire « j'aime l'entreprise », ça voulait dire entre autres ça « on va vous laisser faire ce que vous voulez faire ». Donc entre autres, payer le moins de cotisations patronales possible. Et on l'a jamais vu, Manuel Valls, aller devant une délégation de personnel hospitalier dire « j'aime l'hôpital ». Et encore moins en disant derrière « j'aime la cotisation
». T'as tout à fait raison. Alors je pense qu'en ce moment, le gouvernement irait devant l'hôpital en disant « j'aime l'hôpital ».
Ouais, bah, c'est ce que Macron, un banquier, dire, a fait. Quoi.
Ça veut juste dire « j'aime les soins ». Mais en fait, les soins, ils peuvent être pratiqués de manière très très différente. Et les soins peuvent être pratiqués de manière capitaliste, hein, sans aucun souci, avec des gens qui seraient en CDD, employés, qui seraient très très précaires. Enfin, voilà. Moi, ce que je défends, c'est pas le fait de soigner, parce que des soins, il y en aura tout le temps. Ce que je défends, c'est la fonction publique hospitalière, le fait que les soignants soient des gens qui soient titulaires, le fait que l'hôpital n'ait pas à s'endetter pour soigner, le fait que l'hôpital soit lié à l'université, ce qui fait qu'à mon avis, ce sont un type d'études qui devraient servir de modèle pour un grand nombre de secteurs ou de formations. Hein. Je veux dire, si dans d'autres cursus, je sais pas quoi, si tu prends les ingénieurs, si par exemple les ingénieurs, ils étaient liés à de la production publique comme ça, alors je sais pas ce que ça pourrait être, on pourrait imaginer des trucs sur les énergies renouvelables ou quoi, mais si t'avais des ingénieurs, des élèves ingénieurs qui travaillaient en lien avec le monde de la production, comme c'est fait par exemple dans l'hôpital, à mon avis, tu pourrais avoir des choses super chouettes qui existent en termes de travail. À mon avis, une dernière chose que je voudrais dire, alors là c'est plus à l'état d'ébauche et c'est plus personnel, hein, ça reflète pas forcément ce que dirait le réseau salariat, mais à mon avis on peut se poser la question à toutes les personnes qui en ce moment sont en confinement et qui soit sont au chômage partiel, soit télétravail, soit, enfin voilà, il y a peut-être d'autres situations, on peut se demander, est-ce qu'on est en train de travailler en ce moment ? Est-ce qu'on est en train de travailler ou pas ? Et si la réponse est oui à cette question, si vous considérez que vous êtes en train de travailler parce que, alors soit vous télétravaillez, soit vous vous occupez de vos enfants par exemple, soit vous,
vous faites de la radio
autour de vous, soit vous êtes mis à faire votre potager ou vous êtes mis à réparer, à repeindre votre maison, etc. Est-ce que c'est pas du travail ça ? Alors si vous répondez oui à cette question, si vous considérez que en ce moment de confinement, alors que vous ne vous rendez pas dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail habituel, vous considérez que vous êtes en train de travailler, alors vous ne devez subir aucune baisse de salaire. Aucune baisse de salaire et aucune baisse de cotisation non plus. Et dans la période qui suivra, il n'y aura pas à rembourser une dette de je sais pas quoi, parce qu'en fait, on aura travaillé pendant cette période. À mon avis, il faut vraiment insister sur le fait qu'en ce moment, on travaille. On est en train de travailler. Et donc, qu'on mérite notre plein salaire en ce moment. Et d'ailleurs, moi, je sais que les fonctionnaires en ce moment sont pas mis au chômage partiel. Les fonctionnaires en ce moment, même s'ils ne font rien du tout à la maison qui a à voir avec leur travail de fonctionnaire habituellement, ils perçoivent leur salaire. Donc ça veut bien dire que qu'ils sont en train de travailler. Alors cette situation des fonctionnaires, à mon avis, il faut que tout le monde la revendique, que le salaire, peu importe ce qu'on est en train de faire en ce moment concrètement pendant le confinement, il est bien dû. Et non seulement il ne doit pas diminuer pendant la période actuelle, mais on n'aura pas non plus à le rembourser après. Parce que ça, ils vont nous faire le coup aussi. L'État donc va sans doute contracter un grand emprunt et va dépenser beaucoup d'argent en ce moment. Sauf que du coup, ça va faire de la dette de l'État. Et comme d'habitude, la question de la dette de l'État, il faudra se demander mais qui va la payer ? Et à mon avis, il faut que nous, les salariés, on soit bien d'accord sur le fait que ce n'est pas nous qui la payerons. Ce n'est pas nous qui la payerons, cette dette-là. Aucune attaque des salaires, aucune attaque des cotisations n'est envisageable pendant la crise actuelle. On a sauvé les banques en 2008, alors qu'elles étaient elles-mêmes responsables de la faillite en 2008. Ce coup-ci, ce ne seront pas les salariés qui payeront, c'est-à-dire avec un plan d'austérité ou avec, déjà ce qu'ils ont dans la tête, par exemple une petite réduction des salaires ou une réduction des cotisations en disant, vous voyez ça, c'est pour la solidarité pendant la crise du coronavirus. C'est la solidarité avec les soignants. Donc on va vous baisser votre salaire, on va geler un point d'indice, vous voyez. Donc il faut vraiment qu'en ce moment on se convainque qu'on est bien en train de travailler, on mérite notre salaire, et c'est pas nous qui payerons ce que l'État est en train de dépenser en ce moment.
Voilà. Parce que c'est comment dire? On s'engage là-dessus, quoi. Il y a des trucs, voilà, la théorie du choc, hein. Effectivement, le gouvernement a l'air mieux préparé pour ses, on va dire, réponses économiques à une crise financière qu'à une crise sanitaire comme le coronavirus. Et donc là, on voit des lois passer en décret, mais toutes prêtes quand même, passer quotidiennement. Donc, entre autres, qui vont détruire tout droit du travail, enfin... Ouais. Ça fait revenir à avant que ça existe, le droit du travail, quoi. Donc les horaires, maximum, les congés, etc. Et donc tout ce que tu disais, Loïc, aussi, qui revient, enfin on dit sauver les banques, et donc Friot disait laissons les crever plutôt.
Et qu'ils crèvent, ouais.
Ouais. C'est-à-dire en gros créer de l'argent public qu'il va falloir rembourser en tant que public, donc entre autres en tant qu'État, par exemple la dette de la France, voilà, depuis 2007-2008 là. Par contre, pendant ces 13 ans où ça a bu le champagne à Wall Street et à la Défense et à la City, on les a pas vus trop investir, ouais, dans la puissance publique, quoi, on va dire.
Ouais, mais bien sûr que non, parce que pour eux, mais ça c'est des trucs qui se disent
ce qu'il y a à sauver, quoi.
C'est des trucs qui se disent dans les milieux banquiers. Hein. La crise, c'est une occasion d'opportunité. Stratégie du choc, c'est ce que tu dis. Mais ça, c'est très bien documenté hein, dans le livre de Grégory Chamaillou, La société ingouvernable. Eux, ils font feu de tout bois. Donc, une situation de crise, en fait, ça permet de rebattre les cartes. Je dis eux, les dominants, hein, les capitalistes. Les cartes sont rebattues en cette période. Et donc, ça permet de tester plein de trucs. Alors, moi, je suis enseignant. Je vois, par exemple, que tout le côté télétravail, plein d'outils numériques qu'on n'osait pas proposer aux enseignants, bah là, en fait, ils s'imposent d'eux-mêmes. Mais parce qu'ils étaient déjà prêts avant. Alors, évidemment, ils n'ont pas prévu la crise, etc. Mais eux, ils bossent. De leur côté, ils font leurs outils, ils font des réunions entre eux, ils se disent « Ah, ça c'est bien, on pourrait aller dans ce sens-là ». Et en fait, quand la crise arrive, bah, la solution s'impose un peu d'elle-même. Et il n'y a pas besoin de grandes réunions hiérarchiques ou pyramidales ou de réunions des dominants ou d'un truc comme ça. Je pense pas qu'il y en ait besoin, en fait. Ils ont juste à regarder les trucs disponibles sur la table. Ah tiens, il y en a qui avaient pensé au télétravail. Ouais, c'est possible. Ouais, ça devrait passer. Là, allez, bah, on le met en place. Et là, alors là, ça s'est mis en place en 2 jours, sans grande consultation de ce que je peux en savoir, sans grande consultation des salariés. Mais voilà, eux, ils ont des solutions toutes prêtes. Donc c'est pour ça qu'avec le réseau salariat, avec Bernard Friot, bah, on essaye d'apporter des choses qui seraient prêtes aussi si on est motivé à aller dans le sens de la généralisation de la cotisation sociale, du salaire à vie, de la fin de l'endettement pour travailler, c'est quand même un truc assez scandaleux.
Bien.
Merci Loïc,
ouais. Je sais pas si t'avais des choses que tu voulais rajouter ou si on fait une petite pause musicale.
Moi je voulais.
Non, c'est bon, je laisse la pause musicale.
Je sais que t'as. Bah, hésite pas à nous appeler. On fait la midinale lundi prochain, de midi à 14h. Et c'est chouette de t'avoir.
Ok. Eh ben, portez-vous bien. À la prochaine. Salut.
Salut, merci.
Merci Loïc. Et moi, je voulais juste ajouter, Loïc parlait de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable. C'est un livre qui a été édité aux éditions La Fabrique. Et là, comme il n'y a plus rien qui tourne, les librairies, enfin tout ça, les éditeurs, ça tourne plus. La Fabrique a fait le choix de mettre 10 livres à disposition gratuite dans son catalogue. J'arrive pas à voir si celui-là en fait partie. En tout cas, il y en a 10. La Découverte fait la même chose en mettant à disposition notamment des livres de Mona Chollet.
Ils vont bientôt devenir communistes.
Ouais, peut-être, c'est
encore
ça.
Encore un truc
cas,
super du.
En tout cas, allez voir en sachant qu'il y avait déjà des éditeurs qui le faisaient, les éditions Zone, par exemple. Avant même cette crise et par souci de, je sais pas, que tout le monde.
Étaient déjà communistes.
Et ils étaient déjà communistes et ils mettaient déjà leurs livres gratuitement à disposition. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir avoir ces ressources-là en ce moment, quoi.
Je voulais aussi juste dire qu'on n'oublie pas non plus ceux qui, celles qui ont déserté depuis longtemps le salariat et les bullshit jobs. Et que, voilà, on a beaucoup parlé là
des gens qui travaillent.
Des gens qui travaillent. Il y a aussi des gens qui travaillent librement en dehors du salariat depuis longtemps. Et voilà, on les prend en compte aussi.
Et juste avant la pause, est-ce que Pierre, tu peux rappeler comment ça se passe la journée? À quel numéro on peut nous appeler, tout ça?
Ouais, alors. C'est parti. Vous êtes sur la centrale radio de lutte, radio qui accompagne les luttes sociales et là qui va essayer d'accompagner un peu la lutte sociale malgré ou pendant le confinement. Vous nous appelez au 09 50 39 67 59 où vous nous envoyez des sons, des témoignages à allo@acentrale.org. La centrale, donc, c'est une radio décentralisée, comme son nom l'indique, parce que c'est L'acentrale. en un seul mot, est réalisé un petit peu partout. Donc aujourd'hui, là, on est dans les studios de Radio Piquet à Brest, confiné à Troyes, on va dire, hein, de midi à 14h. Ensuite, on sera de 14h à 17h à Nantes, dans un studio éclaté, je crois. Là, ça c'est sera ça. Chacune chez soi, des moyens techniques que nous n'avons pas, peut-être. parler avec les gens du Bruitagène et les copains-copines du Bruitagène. Après, à Bruxelles, sur Radio Panique, à Radio Moscou, 17h-19h. Et après, à Paris, de 19h à 21h, avec Interzone.
Ouais.
Ça, c'est pour les gens qui font l'antenne. Et après, elle est rediffusée un peu partout. Donc, vous pouvez l'écouter sur le site centralisé de la centrale à centrale.org sur le web. Sinon, c'est rediffusé sur l'Écho des Garrigues en FM dans l'Hérault de 14h à 18h aujourd'hui, je crois. Sur la web radio de Radio Campus, sur l'Écho des Cabanes, web radio aussi. Sur Jet FM, ça sera diffusé, mais un peu plus tard dans la journée, je crois, en léger différé, donc à Nantes. Et sur Radio Piquet aussi, évidemment, piquet.space. Et sur Pinode
à
Mulhouse, en DAB+. On a une petite pensée particulière pour les copines, copains de Pinode, qui sont donc, on pourrait dire... je cherche une métaphore non guerrière.
Ouais.
En tout cas,
ils ont été les premiers à être exposés.
Donc, les situations critiques dans les hôpitaux, ils y sont confrontés depuis plusieurs jours. Et bon, ben voilà, des pensées pour elles et eux. C'est très triste, quoi. Déjà.
Petite pause musicale. On écoute quoi ?
On va écouter Kate Tempest. On parlait de les plans de réponse à la crise financière. Donc là, ça, au niveau de l'Europe, ça arrose, ça dit aux États de faire de la merde libérale, entre autres, de détruire les cotisations qui servent à construire des hôpitaux en France. Et ça parle aussi d'une histoire de personnes seules chez elles. Ça s'appelle Europe is Lost, Kate Tempest.
Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence, a structural viciousness. Your kids are dope, won't stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask our new. It was madness. Roll ran red, pure claret, and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits? Jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot em up brutal, duty of care. Come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaking and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.